pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Des super-héros pour la planète, numéro 2. Un texte d'Ophélie Delaunay paru le 7 août 2025 dans les As de l'info. Il y a quelques semaines, je t'ai parlé de trois espèces aux incroyables pouvoirs qui aident à protéger l'environnement et à lutter contre le réchauffement climatique. Mais tu sais quoi? Ce ne sont pas les seuls super-êtres vivants à avoir un rôle aussi important. Il en existe tellement qu'on pourrait en faire toute une collection. Pour découvrir trois autres super-héros de la planète, c'est par ici. Les oiseaux marins. Super-pouvoir. Producteurs d'engrais. Les oiseaux marins, comme les goélands et les cormorans, fertilisent les sols et aident les plantes à grandir. Comment? En faisant caca. Leurs fientes, appelées guano, sont très riches en azote. Elles sont utilisées par des agriculteurs comme engrais naturel depuis des siècles. Climatiseurs naturels. En Antarctique, les fientes de manchots et d'autres oiseaux marins rafraîchissent l'air. Elles dégagent des gaz qui aident à la formation de nuages. Comme les nuages réfléchissent la lumière du soleil, il fait moins chaud là où les oiseaux ont fait caca. Indicateurs de santé environnementale. Les oiseaux marins parcourent des milliers de kilomètres au-dessus de l'océan à la recherche de nourriture. En suivant leur vol et leur alimentation avec des capteurs et des satellites, les scientifiques récoltent plein d'informations. Ces données permettent de surveiller l'état de santé des écosystèmes marins et les effets des changements climatiques. Les champignons. Super pouvoir. Engrais magique. Sans champignons, les feuilles mortes, les troncs d'arbres et les restes d'animaux ne se décomposeraient pas. Ces super êtres vivants recyclent la matière organique et enrichissent le sol. Résultat, ils aident les plantes à grandir et à absorber plus de CO2. Destructeurs de polluants. Certains champignons sont si efficaces à décomposer la matière qu'ils peuvent détruire le plastique. C'est une bonne nouvelle, car une grande partie du plastique n'est pas recyclé et finit dans la nature. Il existe même des champignons qui se nourrissent de pétrole. Super messagers. Les mycorhizes, des champignons microscopiques ressemblant à des fils, s'associent aux racines des plantes et les aident à absorber l'eau et les minéraux du sol. En échange, les plantes fournissent des sucres à ces champignons. Résultat, les plantes poussent mieux et résistent aux sécheresses et aux inondations. Ce réseau de mycorhizes permet aussi aux arbres d'échanger des messages chimiques entre eux. Si un parasite attaque, ils envoient un message d'alerte à leurs voisins. On appelle ça le Wood Wide Web, le réseau Internet des forêts. Le cactus. Super pouvoir, réservoir vivant. Les cactus stockent l'humidité dans leurs tiges pleines d'épines et peuvent survivre des mois sans une goutte d'eau. Un cactus de saguaro adulte peut contenir jusqu'à 760 litres d'eau, environ 5 baignoires pleines. Pratique pour les animaux du coin qui s'en servent comme source d'eau et de nourriture. Source d'énergie. Dans des pays comme Madagascar, beaucoup d'habitants utilisent des cactus plutôt que du bois pour cuire leurs aliments. Comment? Ils font brûler le gaz produit par ces plantes quand elles se décomposent. C'est une excellente manière de limiter la déforestation. Anti-érosion. Grâce à leurs nombreuses racines, les cactus aident à stabiliser les sols dans les zones désertiques et empêchent les dunes de sable d'envahir les cultures ou les habitations. Ce sont de vrais paravents. tous ces êtres vivants sont vraiment fascinants. Est-ce que tu as déjà vu des cactus, petits ou grands? Entrevue. Une mini-chef au grand talent. Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 7 août 2025 dans les As de l'Info. Au printemps dernier, pendant plusieurs semaines, des jeunes de 8 à 12 ans se sont affrontés à Masterchef Junior Québec, une compétition culinaire des plus savoureuses. C'est Zoé, 12 ans, qui a remporté la toute première saison. Comment a-t-elle réussi un tel exploit à son âge? Quelle est sa recette gagnante? Un mois plus tard, elle nous raconte. Comment as-tu découvert ta passion pour la cuisine? Est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat? Pendant la pandémie, les restaurants étaient fermés et on ne pouvait plus vraiment sortir faire des activités. Alors, mon père et moi, on a commencé à cuisiner ensemble. Au début, je cuisinais surtout pour l'aider. Puis, j'ai commencé à aimer ça et éventuellement, dès qu'il me demandait de l'aide, j'étais déjà à côté de lui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à Masterchef? Quand tu cuisines toujours chez toi, tu fais souvent les mêmes choses. Ça devient difficile d'évoluer et d'apprendre de nouvelles techniques. Je me suis dit que Masterchef, ce serait une belle façon de passer à un autre niveau et d'en apprendre plus. Comment as-tu géré le stress pendant la compétition? Je n'avais pas vraiment le temps de me calmer avant les épreuves. Heureusement, l'adrénaline embarquait assez rapidement et je réussissais à me concentrer. Après le défi, pendant que les juges goûtent les plats, c'est un autre genre de stress. Mais là, ce n'était plus entre mes mains. J'essayais de me détendre en me disant que, de toute façon, je ne pouvais plus rien y changer. Qu'as-tu ressenti quand tu as su que tu avais gagné? C'était fou, mais en même temps, difficile à réaliser. Même le lendemain, je devais me pincer pour y croire. C'est un vrai honneur. As-tu déjà fait une erreur en cuisine qui t'a appris quelque chose? Oui, à Masterchef, pendant un défi, mes œufs n'étaient pas assez cuits. Après coup, je me suis dit que j'aurais pu faire plein de choses simples pour rectifier la situation. C'est une erreur qui m'a appris à toujours penser à des solutions aux problèmes qui peuvent survenir. Est-ce que tu veux travailler en cuisine plus tard? Oui, j'aimerais beaucoup avoir mon propre restaurant un jour. Un endroit avec plusieurs services pour pouvoir montrer tout ce que je sais faire, créer, inventer. Quel message aimerais-tu transmettre aux jeunes qui ont une passion comme toi? Il faut foncer. J'ai attendu jusqu'à la dernière minute pour m'inscrire à Masterchef parce que je n'étais pas sûr. Mais je me suis dit que le pire qui pouvait arriver, c'est qu'on me dise non. Il ne faut pas hésiter à essayer, même si on a peur. As-tu une recette simple à conseiller aux enfants qui aimeraient commencer à cuisiner? Oui. Une salade. C'est simple, mais tu peux apprendre à couper, à mélanger, à ajouter des ingrédients. Tu peux la rendre plus complexe au fur et à mesure. Et toi, aimes-tu cuisiner? Quel plat préfères-tu préparer? Turbulence chez Air Canada. Des employés menacent de faire la grève. Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 8 août 2025 dans les As de l'Info. Mardi, les agents de bord d'Air Canada ont voté pour obtenir un mandat de grève. Attention, ce n'est pas une grève immédiate, mais plutôt un moyen de pression pour montrer qu'ils sont prêts à arrêter de travailler si leurs demandes ne sont pas écoutées. Que réclament ces employés? Et qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ont des voyages de prévu? Voici les dernières nouvelles. Ce que tu dois savoir. Depuis le début de l'année, les agents de bord négocient avec leur employeur, Air Canada, pour améliorer leurs conditions de travail. Leur dernière convention collective, c'est-à-dire l'entente qui fixe leurs conditions de travail a expiré cette année. Elle avait été signée il y a 10 ans. Depuis, le coût de la vie a beaucoup augmenté et les agents de bord trouvent qu'ils ne sont plus assez bien payés. Voici ce que les agents de bord aimeraient obtenir. Une augmentation de salaire, être payé pour toutes les heures où ils travaillent, même celles avant ou après le vol. Actuellement, ils ne sont payés que lorsque l'avion est en mouvement. Mais d'après leur syndicat, Air Canada ne prend pas ces demandes au sérieux. Résultat, les deux parties n'arrivent pas à s'entendre et les négociations traînent. Faire pression pour obtenir une augmentation. En votant pour un mandat de grève, les agents de bord donnent leur accord pour que le syndicat déclenche une grève si ça devient nécessaire. Le but? Faire comprendre à leur employeur que, si rien ne change, il pourrait y avoir des conséquences pour leurs clients, comme des retards ou des annulations de vol. Ça pousse l'employeur à mieux écouter ce que le syndicat demande. À quand la grève? En ce moment, les agents de bord sont dans une période de réflexion jusqu'au 16 août. Pendant ce temps, les négociations continuent. Si une entente est trouvée d'ici là, il n'y aura pas de grève. Sinon, les employés devront donner un préavis de 3 jours avant de commencer une grève. Donc, si une grève a lieu, ce ne sera pas avant le 19 août. À suivre. Et si tu as un voyage de prévu? Pas de panique. Pour le moment, aucun vol n'est annulé. Mais s'il y a une grève, il pourrait y avoir des changements de dernière minute. Air Canada dit qu'elle fera de son mieux pour aider les passagers si la grève se produit. Les voyageurs pourraient devoir changer la date de leur vol, être transférés sur un autre vol ou une autre compagnie, attendre plus longtemps à l'aéroport. Selon toi, les employés devraient-ils avoir le droit de faire la grève si ça empêche des gens de voyager? Victoria Mboko, championne à Montréal. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 8 août 2025 dans les As de l'Info. Victoria Mboko remporte l'Omnium Banque nationale. À sa première participation, la Canadienne de 18 ans l'emporte en 3 manches contre la Japonaise Naomi Osaka, son idole de jeunesse. J'étais au match pour assister à la finale, je t'explique tout. Une domination en première manche. Naomi Osaka est vraiment déterminée à gagner en début de match. Enchaînant les coups précis et agressifs, elle prend une avance de 3 points dès le début de la rencontre. De son côté, Victoria Mboko semble nerveuse. Elle multiplie les erreurs et cumule 4 doubles fautes en 35 minutes de jeu. Malgré une brève remontée, elle perd la première manche par la marque de 6-2. La joueuse japonaise, Naomi Osaka, est indomptable dans ce début de rencontre. Mboko revient dans la rencontre. Après une première manche décevante, Victoria Mboko donne enfin des signes de vie. Au cours des 5 premiers échanges, les deux joueuses enchaînent les balles de bris. Mais c'est la recrue de 18 ans qui finit par prendre les devants 5-2. Cependant, Osaka n'a pas dit son dernier mot. L'ancienne numéro 1 mondiale redouble d'efforts et fait monter le score 5-4. Mboko enchaîne encore une fois les doubles fautes, dont 3 dans le même échange. Après 2 manches, elle est à 12 erreurs seulement sur le service. Elle remporte tout de même la manche 6-4. La foule est en délire. Nous aurons une 3e et dernière manche au stade IGA. Dans une classe à part. Victoria Mboko est dans son élément en début de 3e manche. Elle brise son adversaire à deux occasions et prend l'avance 5-1. Elle n'est plus qu'à un point de la victoire. Service éclair, amorti, plongeon, celle qu'on surnomme déjà Vicky, est partout sur le terrain. Après 2h04 de jeu, Victoria Mboko remporte la troisième manche 6-1. Les applaudissements de la foule retentissent jusqu'à Toronto, où des spectateurs sont rassemblés pour la finale masculine du tournoi. Grâce à cette victoire, elle passe du 85e au 24e rang du classement mondial. Elle devient la première Canadienne à remporter le tournoi à Montréal, et ce, à seulement 18 ans. Quel match et quel tournoi pour Victoria Mboko! Montréal, je vous aime, déclare avec joie la gagnante de l'Omnium Banque Nationale. Et toi, as-tu regardé la finale? As-tu déjà rêvé d'être un super-héros? Un texte de Camélia Boussed, paru le 11 août 2025 dans les As de l'Info. Les films de super-héros sont super populaires chez les ados, comme le nouveau Superman, qui est à l'affiche présentement. Que ce soit Spider-Man, qui saute de mur en mur, ou Black Widow, qui se bat comme une pro, beaucoup de jeunes se reconnaissent dans ces personnages. Ils rêvent d'avoir leur super-pouvoir, mais aussi leurs qualités comme le courage, l'ambition ou la gentillesse. Des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles ont fait une étude pour comprendre comment les ados se reconnaissent dans les super-héros. Voici ce qu'ils ont découvert. Les héros plaisent aux ados. Les ados veulent être des héros. L'étude montre qu'ils sont 10 fois plus nombreux à se reconnaître dans un personnage de héros que dans un méchant ou un personnage neutre. Environ un tiers des ados disent qu'ils s'attachent à un personnage, surtout quand ils partagent des traits de personnalité avec lui. C'est comme s'ils voyaient un peu d'eux-mêmes dans leur héros préféré. Les trois qualités que les ados aiment le plus chez les super-héros sont le courage, être un bon ami, chercher la justice. Manque de diversité des personnages. La plupart des super-héros qu'on voit dans les films sont des hommes. Dans les franchises les plus connues, environ 70% des héros sont des garçons. Ça veut dire que les filles ont moins de modèles féminins dans lesquels se reconnaître. Elles doivent souvent s'identifier à des personnages masculins qui leur ressemblent moins. Heureusement, certaines franchises comme Les Incroyables ou Suicide Squad sont plus populaires chez les filles grâce à des héroïnes comme Violette Parr ou Harley Quinn. Les chercheurs ont aussi remarqué que 70% des super-héros les plus connus ont la peau blanche. Les ados qui ont une autre couleur de peau se reconnaissent donc moins dans ces personnages. Mais quand un héros leur ressemble, c'est différent. Par exemple, Black Panther est le personnage préféré des jeunes ados noirs. Et toi, quel est ton super-héros préféré? Est-ce qu'il te ressemble un peu? Est-ce que tu aimerais avoir ses pouvoirs ou ses qualités? Quand les feux de forêt voyagent jusqu'à ton nez. Un texte de Clémence Tessier-Laliberté, paru le 6 août 2025 dans les As de l'Info. Tu en as sûrement entendu parler. En ce moment, il y a beaucoup de feux de forêt au Canada. Ces feux brûlent surtout dans l'ouest du pays, comme en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, mais aussi dans le nord du Canada, comme au Yukon et dans les territoires du Nord-Ouest. Les pompiers forestiers sont au boulot et travaillent fort pour éteindre tous ces feux. Ces incendies sont très puissants et occupent un grand territoire. Et même s'ils se trouvent parfois à des milliers de kilomètres de chez nous, ils peuvent quand même avoir un impact sur l'air qu'on respire. As-tu remarqué quelque chose de différent dans l'air ces temps-ci? Et non, je ne parle pas de l'odeur qui émane de chez ton voisin, qui fait un barbecue tous les soirs. Dernièrement, on a pu observer le ciel devenir un peu laiteux, gris ou même orangé. La lumière est bizarre, comme s'il y avait un voile entre toi et le soleil, et parfois, ça sent la fumée, comme si un feu de camp brûlait tout près. Il s'agit en réalité de la fumée des feux de forêt dont je te parlais plus tôt. Elles peuvent voyager très loin et changer la qualité de l'air, même dans des villes qui sont éloignées des incendies. Montréal, ville la plus polluée au monde. Dans certaines régions, la qualité de l'air est même devenue l'une des pires au monde au cours de la dernière semaine. C'est arrivé à Montréal, mais d'autres endroits au Canada ont aussi été touchés. Quand l'air est très pollué par la fumée des feux de forêt, ça peut rendre certaines personnes un peu étourdies, fatiguées, ou leur donner mal à la tête ou aux yeux. Que faire quand l'air est mauvais? Tu peux regarder la qualité de l'air sur une application météo. On appelle ça l'indice de qualité de l'air ou la cote Air Santé. Si le chiffre est très élevé, autour de 7 ou plus, ça veut dire qu'il vaut mieux éviter de faire du sport dehors, rester à l'intérieur si possible, fermer les fenêtres pour que la fumée n'entre pas et boire beaucoup d'eau. Les personnes les plus sensibles, comme les bébés, les personnes asthmatiques et les personnes âgées, doivent faire encore plus attention. Mais pas de panique. Les fumées finissent toujours par partir, et on peut profiter de l'été et prendre un grand bol d'air dès que le ciel redevient bleu. As-tu toi aussi remarqué que l'air semblait différent chez toi? Le 9 août est une journée spéciale pour nous, autochtones. Un texte d'Audrey Lise Roquervieux, paru le 9 août 2025 dans les As de l'Info. Quoi? Le 9 août, c'était la Journée internationale des peuples autochtones. C'est une date qui mérite qu'on s'y intéresse parce qu'elle met en lumière les droits, les luttes et les savoirs autochtones. C'est une occasion d'ouvrir son cœur, ses oreilles et ses yeux à des cultures qui existent depuis très longtemps. Le 9 août, une journée pour voir plus grand. La Journée internationale des peuples autochtones a été officiellement proclamée en 2014 par l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, afin qu'elle soit célébrée chaque année le 9 août. Si tu souhaites en apprendre davantage, l'ONU est un groupe qui réunit presque tous les pays du monde. Ils travaillent ensemble pour protéger les droits humains, la paix et l'environnement. Pourquoi le 9 août? Parce que c'est le jour où s'est tenue la toute première réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones, en 1982. Ce groupe avait pour but d'écouter les revendications des peuples autochtones du monde entier. Depuis le 9 août, est devenue une journée mondiale pour reconnaître les droits des peuples autochtones, parler de leur lutte, de leur savoir et de leur rôle dans la protection de la planète. Chaque année, l'ONU choisit un thème spécial comme la protection des langues autochtones, le changement climatique ou encore la place des jeunes dans leur communauté. Cette année, le thème est en lien avec la technologie. Le thème de la Journée internationale des peuples autochtones 2025 est « Peuples autochtones et l'intelligence artificielle, défendre les droits, façonner l'avenir ». Ce thème veut mettre l'accent sur le rôle important des peuples autochtones et souligne l'importance de respecter leurs droits et leur culture, à notre époque où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place. Le 21 juin, une journée qui rassemble. Tu connais peut-être davantage cette date. Dans plusieurs écoles, on souligne cette journée. Le 21 juin a été choisi parce que c'est le solstice d'été. C'est aussi un moment important dans plusieurs traditions autochtones. Cette journée a été proclamée en 1996 par le gouvernement du Canada à la suite de demandes venant de leaders autochtones qui souhaitaient qu'on reconnaisse cette date. Elle s'appelle aujourd'hui la Journée nationale des peuples autochtones et elle existe pour honorer les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada. C'est une belle façon de mettre en valeur les langues, les traditions, les savoirs et les histoires des peuples autochtones d'ici, et surtout, de montrer que nous sommes encore bien présents et surtout très fiers de faire partie des Premières Nations. Et dans les communautés autochtones, ça se passe comment? Dans plusieurs communautés autochtones, la Journée nationale du 21 juin est bien connue. On y organise souvent des activités comme des repas traditionnels, des danses, des jeux ou des cérémonies, des spectacles offerts par des artistes autochtones. C'est une journée festive qui rassemble autant les petits que les grands. Le 9 août, lui, est parfois moins célébré localement. Par exemple, dans ma communauté de Pessamit, située sur la côte nord, il n'y a pas toujours d'activité organisée cette journée-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la souligner autrement. On peut, par exemple, lire un article, écouter une histoire, poser une question, apprendre un mot dans une langue autochtone. Il y a plein de façons simples d'honorer cette journée. Si tu as découvert quelque chose en lisant ce texte, je suis contente. Parce que plus on apprend, plus on peut se comprendre. Connaissais-tu la journée du 9 août?
C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Michel, Eva, Mathieu et Samuel.